dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Bonjour Gorka.
Egunon.
France Bleu, Pays Basque, janvier 2019.
Une chanson, une histoire, pour refaire l'histoire, parfois politique de notre pays, religieuse aussi, et qui va au-delà de nos frontières. Avec aujourd'hui, on va entendre la voix de Colette Magny, qui chante en français sur des chants basques interprétés par des religieux.
À l'occasion d'un film qui vient de sortir, fait par un Marseillais.
Oui, enfin, j'ai oublié de dire.
C'était pour éclairer un peu plus les choses.
Et ce Marseillais en question est aujourd'hui notre invité, Pierre Prouvez.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin.
Dissonance vous propose une heure d'immersion dans une partie de l'univers de Colette Magny, une chanteuse et compositrice éclipsée des mémoires.
C'est un de ses amis, Pierre Prouvez, qui sera notre guide. Auteur d'un incroyable travail d'enquête, ce troubadour, ce chanteur des rues, est aussi le réalisateur avec sa compagne Martine d'un magnifique film documentaire intitulé « Camarade curé, S.S. Doudnaï » sur les pas de Colette Magny au Pays Basque, et sous-titré ainsi « Généalogie d'une chanson ».
Pierre nous invite à un fabuleux voyage qui va nous mener de Colette Magny, la chanteuse à la voix jugée trop provocante et longtemps bannie des ondes, jusqu'aux prisonniers politiques basques, en passant par la résistance au franquisme.
De 1963, lorsque Pierre découvre Colette Magny, jusqu'à nos jours, alors qu'il travaille à la suite de son documentaire, ce voyage nous fait côtoyer un monde qui rentre en résonance avec la chanson de Colette, Camarade curé.
Cette figure de la contestation politique des années 60 jusqu'à sa disparition en 1997 n'a jamais essayé de séduire, travaillant sur les mots mais aussi sur la forme qu'elle veut changeante et révolutionnaire.
Je suis pure comme un diamant, je n'ai fait que ce que je voulais,
disait-elle sur France Culture en 1986.
Colette Magny reste toujours vivante et d'actualité. Plus de 20 ans après sa disparition, c'est par les rappeurs français que son héritage refait surface. Pour preuve, sa voix que l'on peut entendre dans une chanson d'Orelsan parue en 2020.
L'univers de la bande dessinée s'en est aussi inspiré, notamment dans la BD Colette Magny, les petites chansons communistes de Yann Madé, parue en 2022 aux éditions Jarille, et dont notre invité Pierre Prouvez est un des personnages principaux.
Puisse cette émission vous donner envie de découvrir l'œuvre de Colette Magny.
Michel Buller, Lilian Deriot et Jean-Marc Le Bihan, amis de Colette, nous accompagneront tout au long de ce voyage radiophonique.
Et sans plus tarder, c'est à Jean-Marc Le Bihan, chanteur des rues, harangueur de foule et libertaire au grand cœur, que nous laissons le soin d'ouvrir cette émission.
C'était en 1996 à Marseille.
Elle porte en elle ce qui est nous. Elle est musique, elle est partout. Elle nous réinvente la vie. Elle fait le jour quand il fait nuit. Elle est la voix, elle est le cri. Elle dit ce que l'on n'a pas dit. Et quand elle révolte les mots, toute la chanson vibre nos peaux. Elle ne prend pas de raccourcis. Elle dit la vie comme elle la vit. Elle blouse l'âme dépaumée. Elle démenote les sans-papiers. Elle est tendresse, elle est colère. Elle bouge le cul des grabataires. Quand elle se fâche, c'est pour de bon. Mais elle tendresse tous nos frissons. Comprenez la merde à vos bancs. Merde aux pourris qui se disent grands. Elle est du côté du plus petit. Ses mots sont plus forts que les fusils. Elle est en nous, on la quitte plus. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont connue parlent d'elle avec passion. Tant pis pour la télévision. Elle descend sur toutes les censures. Elle fait soulever tous les cœurs purs. Son cri puissant réveille en nous tous les combats jusqu'au plus fou. Le temps sans âge, grande sœur, courage. Vos chansons sont de nos voyages. Et mon rêve s'est réalisé. J'ose vous écrire, j'ose vous parler. Et qu'importe ce qu'il adviendra, éternellement elle chantera. Avec tendresse, parole d'amis, on vous salue Colette Magny. On vous salue Colette Magny. Un soir de novembre, théâtre du Merlan, Marseille en gris, Marseille en blanc. Malgré nos joies, malgré nos drames, pour saluer une grande dame, tous les grands mots ne suffisent pas. Il fallait marcher sur ses pas. Il fallait marcher sur ses pas.
Pierre Prouvez sur Dissonance.
Salut Pierrot, si j'avais à te présenter à nos auditeurs, je pourrais dire Pierrot, Pierre Prouvez, le troubadour, ou alors le compagnon de route de grande voix rebelle de la chanson française, ou alors réalisateur de documentaires, je sais pas quoi choisir.
Alors, je suis peut-être un peu tout ça, mais en fait, à l'origine, je suis de la chanson, hein, voilà. Donc, et tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit comme enseignant ou comme ce soit comme militant, ça s'est toujours fait avec la chanson. J'écoutais 1963, je cite une date parce que mon copain Jean-Pierre, donc j'étais au séminaire, nul n'est parfait, bon chacun se soigne comme il peut, mais mon copain Jean-Pierre me fait écouter en blind test une voix et Basin Street Blues. Down the Mississippi, we'll take the boat to the land of dreams. Et je dis, oh putain, la voix de la noire américaine. Et il me montre la photo de... il me montre la jaquette du disque. C'était le visage poupon et tout blanc de Colette Magny. Voilà. Donc ça a commencé... je chantais déjà depuis des années, toi. J'avais donc là 13 ans, mais je chantais déjà depuis 7-8 ans, quoi. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait, c'est autour de la chanson. Et Colette Magny... et Jean-Marc Le Bihan, et Chansons de l'événement, et le Pays Basque. Bon, tout ça, c'est pour la chanson. That's the place where everybody meets. Well, in your limbs, and a dreams. Now tell what I say. Un peu Colette Magny dans la variété aussi, dans la variété telle que nous on l'écoutait, on écoutait des choses très variées. Alors j'écoutais du grégorien, j'écoutais du jazz, j'écoutais du gospel, on disait pas gospel, on disait négro spirituel à l'époque. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, siree, when time is free, dear to me, where I can lose my Basin Street blues. Et donc justement, le fil conducteur de notre émission, ça va être Colette Magny, que tu as rencontré comment ? 12 ans après, 1975, au théâtre Tourski à Marseille, chez Richard Martin, je vais écouter Colette Magny, qu'on savait, chanteuse engagée, etc. Et premier truc, la chose qui me reste, c'est camarade curé. C'est le premier camarade curé, l'évêque t'a interdit, etc. Alors camarade curé, oxymore, comme dirait un de mes amis. Et sur le refrain... non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là, arrivent des voix. Alors, je sais que c'est des voix d'hommes, mais ça chante haut, dans une langue où je comprends que dalle, et où j'apprends après, plus tard, que c'est le chœur des prêtres basques de Gogor, donc du Pays Basque. Voilà. Donc c'est la première, la rencontre, ça s'est fait autour de ça.
Camarade curé, l'évêque t'interdit d'exercer ton ministère. À la rigueur, tu peux dire la messe, mais surtout, surtout pas prêcher, car tes sermons, les fidèles, ça risque de les dévoyer. Camarade curé, tes prêches, le peuple les aimait, car tout ce que tu disais, ça les concernait. Dans leur cœur, dans leur vie, dans leur façon de penser. Camarade curé, la sanction qui t'a frappé, c'est par le peuple qu'elle est assumée, jugée. Plus personne à la messe pour le nouveau-né curé nommé. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. L'Église est coupable de l'oppression qui s'exerce sur les travailleurs. Liée au pouvoir fasciste, militariste et capitaliste, elle jouit de privilèges dont le peuple est privé. Nous la voulons pauvre, du côté des pauvres et des opprimés, libre sur le plan du culte, dynamique, à l'avant-garde de la promotion humaine, qu'elle s'incarne dans l'histoire, dans la marche et dans l'effort des travailleurs du Pays basque. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. On me sépare du monde, menottes aux mains. Le fouet encercle mon corps, comme les frênes sont tristes. Le brouillard leur cache les étoiles. Oiseaux en cage, presque sans force, la tragédie dans l'âme. On veut nous faire penser par la force sous la menace des fusils. À la trompeuse lumière de la lune, le basque chemine, désorienté, mais en chantant, sortira le soleil de la vérité. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Alors, donc 75 sur la scène, juste comme ça, je la rencontre pas plus que ça, et on travaille avec les amis qui chantions dans la rue, après la rencontre avec Jean-Marc Le Bihan, on a un groupe, nous, qui s'appelait Chansons de l'événement, avec Alain, on jouait à deux, puis ses frangins sont venus jouer, puis on a fait la rue, et on s'est dit que nous, on prenait la parole, mais qu'on voulait aussi la donner. Donc la donner, ça a été en 96, ça a été la donner à Jean-Marc Le Bihan, qu'on avait rencontré déjà des années avant dans la rue, et Jean-Marc Le Bihan, la chanson de rue, la prise de position, les grands coups de gueule dans la rue, notamment sur Lyon, mais il était venu à Marseille, et il craignait un peu, parce que là, il connaissait pas Marseille, quoi, je veux dire. Pour lui, sa ville, c'était Lyon, quoi. Mais donc, on se trouve autour de la chanson, et on organise en 96 au Théâtre Tourski, sur les pas de Colette Magny. Alors, parce qu'entre-temps, j'avais pu aller la voir. En fait, on lui avait envoyé une cassette de chansons de l'événement. Et par retour du courrier, parce qu'elle répondait aussitôt, elle nous avait répondu « Ouf, merci que ça existe encore ». Alors notre cassette, c'était 68-88 ou 20 ans après, alors avec nos textes à nous, ouais, je veux dire. Cette rencontre, alors, s'est faite, en fait, un jour je me trouve vers Toulouse, et je l'appelle, je lui dis « Colette, je suis par là, est-ce que je peux passer te voir ?» Elle me dit « Ah ben bien sûr, oui ». Donc je passe la voir, et là, elle me dit que bon, elle est un peu seule dans son pays, seule, avec les gens du village, avec Didier, avec qui elle avait commencé à faire des choses. Et d'ailleurs, elle avait dit « Il faut que je passe à mon copain du village et que je vous passe ta cassette pour vous faire venir. »
Didier, bon, c'est Didier Brassac qui habite à Verfeil, c'est ça?
Voilà, qui est à Verfeil, qui est dans le village de Colette, quoi. Je veux dire, Didier qui a été quand même le dernier musicien de Colette, qui l'a accompagné longuement et puis même jusqu'à la fin quand même, voilà. Et donc, c'est un petit peu ça, voilà. Après, on pourra continuer à évoquer Colette, hein, je veux dire, parce que Colette, c'est l'envie qu'elle vienne à Marseille, mais elle pouvait pas, elle était malade, elle est décédée quand même 6 mois après, donc on était au théâtre du Merlan à Marseille en 22 novembre 96. Et alors c'était rigolo parce que on avait écrit à tous les théâtres de Marseille pour pouvoir faire une soirée Colette Magny et personne ne nous avait répondu jusqu'au jour où on a croisé le directeur du théâtre du Merlan et on a rempli la salle du théâtre du Merlan un soir alors en plus où il y avait match de foot de l'OM donc on était fort quoi je veux dire voilà oui. Donc, et on a fait cette soirée donc et Colette n'était pas là mais on l'a eu au téléphone on a eu 20 minutes d'entretien avec elle.
Mais le coton des boutons de gosse dans un jambon.
Colette, c'était quelqu'un qui représentait la chanson engagée, la chanson rebelle dans ces années 70-80, qui avait eu un grand succès dans les variétés avec la chanson Mélocotone qui avait été propulsée. Mais après, elle s'est vite écartée de ça pour mettre sa voix, son timbre de voix incroyable au service des causes perdues.
Ah oui, alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que pour la petite histoire, c'était Mike Baker, guitariste noir américain qui travaillait chez CBS où Colette avait signé, qui, voyant le succès de Mélocotone, notamment avec l'Olympia, qui elle passe devant les Sylvie Vartan, les Claude François dans la presse le lendemain, Mike Baker lui dit « on va faire d'autres Mélocotones ». Et CBS était content de... Et elle dit « non, moi je veux faire la peine et le travail des gens ». Et Mike Baker lui répond de manière un peu désinvolte. Alors, dans ses mémoires, Mike Baker ne le raconte pas comme ça, mais Colette, moi, me le racontait comme ça. Et elle dit, il lui dit, va faire tes petites chansons communistes qui ne rapportent pas un centime. Et quand on racontait ça à François Tuschke, qui connaissait bien les musiciens américains, il disait, mais ça m'étonne pas parce qu'ils étaient dans le business. Et paradoxalement, juste je fais une parenthèse, Mike Baker, dans ses mémoires, explique qu'il a fait notamment de la musique pour pouvoir faire du pognon parce qu'il était très pauvre, etc. Et bon, c'est... Alors, dans ses mémoires, Mike Baker évoque Colette Magny, cette chanteuse communiste qui gueulait tout le temps, quoi. Voilà, bon, c'est... Je résume un petit peu. Hein,
qui avait une voix incroyable, qui a eu du mal à se faire éditer ses derniers disques, qui est morte accompagnée de quelques personnes, et qui est enterrée pas loin de l'Aveyron, à Verfeil, et qui a vécu ses derniers jours à l'hôpital de Villefranche-de-Rouergue.
Tout à fait. Verfeil-sur-Seille, à Selgues, et pour la petite histoire, Colette Magny avait, quand elle a voulu faire une chanson sur Cuba, CBS a refusé de l'éditer, et donc c'est Chants du Monde qui l'a édité. Alors bon, je vais un petit peu vite parce que les discussions étaient un peu plus longues que ça. Mmh. Et Chants du Monde, il y avait la directrice, Madame Loreille, qui habitait la région de Verfeil, à Ginals.
D'accord.
Et un jour, Colette va voir Madame Loreille, et elle lui dit « Fais-moi visiter ton truc ». Et puis, bon, il visite, et à un endroit, Colette dit « C'est là ». Et Mireille Loreille lui dit « C'est là quoi ?» Ben, c'est là que je veux être enterré. Et trouve-moi une maison, trouve-moi quelque chose que je puisse avoir. Et donc, elle faisait 6 mois à Selgue, dans la commune de Verfeil, et 6 mois à Paris, et puis après, elle s'est retirée à Selgue, quoi.
Et tu évoques un moment, parce qu'elle a été compagnon de route aussi de la bande à Ferré, et tu évoques une anecdote sur Ferré.
Alors, Ferré, alors ça Ferré, c'est intéressant parce que
Ferré,
après, c'est une double histoire, mais Ferré, je crois qu'il chantait en Belgique, et ils étaient à table, spectacle, et l'organisateur du spectacle, alors j'ai pas retrouvé exactement lequel, mais l'organisateur du spectacle dit à Colette, arrête de parler entre tes chansons, et Ferré regarde l'organisateur et dit, mais attends, elle fait ce qu'elle veut quand elle est sur scène, c'est elle qui est sur scène, c'est pas toi. Bon, l'organisateur s'est tu, évidemment, le grand Léo ayant dit ça, quoi, je veux dire, il pouvait difficilement faire autre chose. Mais effectivement, et la petite histoire, c'est que Jean-Marc Le Bihan, ne connaissant pas cette histoire, me dit que sa première rencontre avec Colette Magny, c'était aussi en Belgique, et la même histoire lui est arrivée, c'est l'organisateur qui dit à Jean-Marc arrête de parler entre tes chansons, alors c'était pas le même organisateur, hein, mais il lui dit arrête de parler entre tes chansons, c'est pas intéressant, etc. Et Colette lui dit qui tu es toi, pour lui dire, voilà, c'était la même histoire, Ferré, Le Bihan, Colette Magny, voilà.
Pour saluer une grande dame, tous les grands mots ne suffisent pas, il fallait marcher sur ses pas, il fallait marcher sur ses pas.
Pierre Prouvez sur Dissonance.
Colette qui est décédée en 97, cette dame que l'on classait à gauche, que l'on classait parmi les anticléricaux, et un jour, donc, tu découvres cette chanson qui s'appelle Camarade curé.
Camarade curé, l'évêque t'interdit d'exercer ton ministère. À la rigueur, tu peux dire la messe, mais surtout, surtout pas prêcher, car tes sermons...
Comment Colette pouvait-elle chanter une telle chanson et que cacher ce cœur d'homme dont tu nous parlais au début de la chanson?
Alors, en fait, Colette, c'était une... j'ai tendance à dire que c'était une pirate, c'est-à-dire qu'elle prenait tout ce qui lui passait sous la main, qui lui paraissait important, hein, les mineurs du Nord, Boubou Yéyé, toi, je veux dire, et... Elle a signé avec Chants du Monde, elle a découvert à Chants du Monde que Chants du Monde diffusait un disque qui s'appelait Gogor, qui était des prêtres basques qui s'étaient en 68 réunis dans un séminaire pour dénoncer la hiérarchie catholique et ayant écrit au pape attendant la réponse, etc.
C'était sous Franco, hein.
Alors le tout entouré par l'armée et la police à Derio. Et que font deux Basques qui sont ensemble? D'abord, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent.
Sigo.
71, ce disque qui était paru fin 69, début 70. Alors, par une boîte à Gorilla, qui n'est pas une boîte de gauche, mais ils trouvaient personne pour diffuser en France, et ils ont demandé à Chant du Monde. Chant du Monde, qui était près du Parti communiste, dit-on à l'époque. Et Colette, étant à Chant du Monde, se trouve à écouter ce disque, et elle fait la pieuse. Elle prend des phrases dans ce disque-là, la chanson Camarade Curé n'est faite, sauf le premier couplet, n'est faite que de citations qui sont dans les chansons du disque. Et, alors évidemment, Camarade Curé, c'est oxymore, hein, oui, je veux dire, c'est. Moi, la première fois que j'ai entendu, j'avoue, j'étais un peu sidéré. Non pas que j'ai quelque chose contre les curés ou contre les camarades, mais bon, c'était étonnant. Il y avait des gens qui m'avaient dit, là, elle est partie à un endroit où c'était pas intéressant qu'elle aille. Et moi, j'avais dit à la personne, mais qui tu es pour lui demander, pour dire qu'est-ce qui était intéressant. Elle trouvait justement que les curés qui faisaient ça faisaient quelque chose de révolutionnaire, pour elle c'était révolutionnaire, et donc elle voulait en faire état dans ses chansons.
Parce que c'était sous le franquisme, c'est ça, hein.
Et c'était sous le franquisme, je veux dire, ces gens-là prenaient des risques énormes, tu vois, je veux dire. Elle fait notamment la chanson sur la musique d'une chanson de Yolène Lekuona, SS Dunaï.
Qu'est-ce Dunaï, SS, on la
qui était une chanson d'un curé. Alors ça aussi c'était, mais qui n'était pas l'occupation du séminaire de Derrio en 68. Mais les prêtres basques chantaient les chansons qui leur paraissaient aussi importantes.
Mais ça, tu l'as découvert petit à petit, en allant faire une enquête au Pays Basque, ce qui a donné la réalisation d'un magnifique documentaire que l'on peut trouver gratuitement sur Vimeo. On mettra le lien sur les pages internet. Comment tu as pu tirer le fil de cette pelote pour arriver à trouver ces centres
basques? Là aussi, le Pays Basque, c'est un peu comme les Corbières, c'est un peu comme l'Auvergne. Il faut montrer patte blanche d'abord. Il faut montrer l'intérêt que tu as pour ça, et après, les portes s'ouvrent. Alors, en fait, de manière un peu anecdotique, avec mon épouse, on devait aller faire une cure. Et le toubib à Marseille me dit, ne le fais pas près de Marseille parce que tu te reposeras pas. Alors, on décide avec Martine de partir au Pays Basque, et avec l'idée d'enquêter sur la chanson de Colette Mani, Camarade Curé. Et en fait, l'idée, c'était de rencontrer des gens pour pouvoir raconter d'où venait cette chanson. Le film s'appelle aussi, le sous-titre, c'est Généalogie d'une chanson. Et pour cela, on arrivait quand même avec la chanson de Colette, Camarade Curé, j'avais envoyé un petit peu à des gens autour, et je suis allé rencontrer l'Institut culturel basque à Ustaritz, et première chose, j'indique pourquoi je viens au Pays Basque, et la secrétaire me dit « Colette Mani ?» Ah mais attendez, Colette Mani, mais bien sûr, on connaît bien. Elle appelle le directeur, et là, je découvre qu'au Pays Basque, Colette Mani est entendue et connue. Elle y est venue, la secrétaire me dit, mais elle est venue à OCS, à Saint-Michel, donc on découvre qu'elle a participé de la vie du Pays Basque par sa chanson. Hein, et on me donne effectivement une adresse en me disant, il faut que tu vois un curé, qui est toujours curé, lui, Michael Epalsa, parce que lui, il a certainement des gens. Et puis on me donne une deuxième adresse, c'est Shabir Amourissa, poète improvisateur, Bert Choulari, comme on les appelle au Pays Basque, qui lui aussi a été curé, mais a quitté qui a été un occupant de Derrio en 68, donc ceux qui sont dans le disque Gogor, et cela, pourquoi faire? En fait, pour qu'il nous raconte comment lui a vécu de l'intérieur, ça. On met un an à prendre contact, donc 74, on prend des contacts, 75, on réussit à rencontrer Shabir Amourissa, on passe 3h30 avec Michael Epalsa, Et on fait cet entretien. Le soir même, il nous dit, demain, il y a une soirée pour les prisonniers politiques basques à Oustaritz. On chantera Esdounaï si vous voulez venir. Et donc, on va rencontrer. Et là, on croise la route des familles de prisonniers politiques basques. Je pense à Marie-Claire, je pense à Janine. Donc, David, le fils de Marie-Claire, a fait je ne sais combien d'années de prison. Laurentia, la fille de Janine, a fait 27 ans de prison, ou 20 ans de prison, je crois qu'elle est quelque chose comme ça. Bon, elle en est sortie. Et on fait donc ces entretiens, donc on fait connaissance avec des gens.
Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Et 1976, donc j'étais en train de travailler le film, je reçois un mail me disant « Je crois que je suis le fils du camarade curé ». Alors, en français, dans le texte, et le drôle de la chose, c'est que il ajoute « Je pense que maman a des choses à vous raconter ». Alors je lui dis « Moi je ne parle pas basque », elle me dit « Mais maman est professeure de français ». Et il se trouve que c'est la famille de Julen Lekuona, celui qui a écrit « SS Dunaï ». Découvre, on les rencontre et on entend un petit peu leur témoignage. Eux, enfants d'un prêtre qui a quitté la prêtrise et qui est venu au Pays Basque, faire de l'agriculture.
D'accord. Donc pour résumer, SS Dunaï, c'est une chanson écrite par un prêtre qui s'appelait Julien Lekuona.
C'est ça.
Qui a été reprise par des séminaristes ou des prêtres qui s'étaient enfermés en opposition à leur évêque, à leur hiérarchie qui prenait un peu position pour Franco, ouais. Qui s'étaient enfermés dans un séminaire et qui ont enregistré un disque, c'est ça ?
C'est ça. Alors, les prêtres demandaient que l'Église soit du côté du peuple, du côté de la liberté, voilà.
Et ces chanteurs, ces curés qui ont chanté ces chansons, qui ont gravé ce disque, n'ont pas subi la répression franquiste ?
Chabira Mourissa, je pense qu'il a vraiment, il fait partie de ceux qui ont subi cela, parce que bon, après le mouvement de 20, un peu plus de 20 jours à Derrio, il y a 5 prêtres qui ont fait la grève de la faim à l'évêché de Bilbao. Chabira Mourissa, toujours prêtre, faisant l'office à l'église, se trouve un jour des policiers en civil qui viennent l'arrêter. Alors lui se réfugie dans l'église, et en fait, pourquoi on venait l'arrêter ? Parce qu'il avait refusé le drapeau espagnol dans l'église, parce qu'il avait enterré religieusement des militants de l'ETA et autres, et donc c'est pour ça, et il a fait quand même 8 ans de prison. Et dans ces 8 ans de prison, le disque qui avait été à sa fin novembre, début décembre, ils avaient enregistré, ils étaient à la sortie de ça, ils avaient enregistré entre eux dans un monastère, ils avaient enregistré une douzaine de chansons. Et le disque, alors Chabira Mourissa m'a raconté comment faire éditer un disque comme ça. Un pays franquiste, c'était pas possible. Il fallait aller à Bayonne et avec l'aide de la résistance antifranquiste, Telesforo de Monzón, par exemple, on sait qu'il a aidé au financement de ça. Et puis, je pense à Chabir. Baroutia qui lui, petit garçon, a mettait des disques dans les enveloppes avant que ça passe dans les voitures cachées pour revenir en côté espagnol, quoi, côté Pays Basque Sud, pardon. Et voilà. Et donc ce disque-là, Chabira Mourissa ne l'a découvert qu'en sortant de prison 8 ans après.
Ah, c'est toi qui lui fais découvrir, ou alors
Là, le disque de Gogor, il le découvre, il sait qu'il a été édité quand il sort de prison, parce qu'en prison, évidemment, il n'avait pas ça. Mais par contre, je lui fais découvrir la chanson de Colette Mani, Camarade curé. Et il me disait le bonheur qu'il avait eu de découvrir que leur bataille, que leur lutte avait passé les frontières. Quoi.
L'Église est coupable de l'oppression qui s'exerce sur les travailleurs. Liée au pouvoir fasciste, militariste et capitaliste, elle jouit de privilèges dont le peuple est privé. Nous la voulons pauvre, du côté des pauvres et des opprimés. Libre sur le plan du culte, dynamique, à l'avant-garde de la promotion humaine. Qu'elle s'incarne dans l'histoire, dans la marche et dans l'effort des travailleurs du Pays basque.
Mon ami Chabir Baroutia me dit, celui qui, petit garçon, avait mis les disques dans les jaquettes des disques, me disait, cette chanson SS Dunaï n'est pas autant chantée que ce qu'elle le devrait. Et bon, il le disait comme ça, de manière... Et alors, quand il a découvert effectivement Colette Magny, ça a été quelque chose comme d'important. Mais la réception de ça, moi j'ai été étonné, parce que les amis basques me disent, on fait une conférence de presse. Alors moi, je n'avais jamais fait de conférence de presse, je veux dire, qui je suis pour faire une conférence de presse. Ils m'invitent à faire une conférence de presse au cinéma Le Select à Saint-Jean-de-Luz. Et conférence de presse où il y a trois radios qui viennent. Les télés n'avaient pas pu se déplacer. Ils nous appellent pour nous dire on voudrait faire, est-ce que vous viendriez au studio, est-ce qu'on peut venir vous voir, etc. Donc la télé basque, mais aussi France 3, Pays basque. Et ça... partout dans le Pays basque, des gens que j'ai revus deux ans après m'ont dit, mais on t'avait entendu à la radio, on t'avait entendu... Bon, moi, j'étais un peu gêné, quoi, je veux dire. Et on m'a même dit que aux portes des églises, l'annonce du film était faite, quoi. Bon, alors, ça a donné quoi? Ça a donné que je crois que c'est le 19 janvier, à Saint-Jean-de-Luz, au Select, dans une salle de 307 places, on sait, parce que il y avait les tickets qui correspondaient, à 18h30, une demi-heure avant le film, la salle est pleine à craquer. Et dans le hall, il y a 150 personnes qui attendent. Et on apprend qu'il y a des gens qui sont venus de Boléon, il y a des gens qui ont fait 100 bornes pour venir voir le film. Bon, j'avoue que Martine qui comptait sur ses doigts disait, oh, on sera quoi, 25, 30? Voilà, elle comptait les gens qu'on connaissait et ceux qu'on connaissait pas. Voilà. Et le directeur de la salle qui dit aux gens qui sont dans le hall, alors, il y avait 150 personnes dans le hall, et qui leur dit, mais vous en faites pas, Pierre et Martine reviennent au mois de mars et on refera des diffusions. Et donc on a refait effectivement des diffusions au mois de mars, on a fait Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, on a fait six salles, Cambo aussi, et on a refait aussi le Select à Saint-Jean-de-Luz. Voilà.
Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Pour saluer une grande dame, tous les grands mots ne suffisent pas, il fallait marcher sur ses pas, il fallait marcher sur ses pas.
Pierre Prouvez sur Dissonance.
Préparer cette émission, Pierrot, tu me disais que aborder les thèmes de la résistance basque de nos jours, c'était pas très très couru, parce que il y a les pro-ETA d'avant 75, il y a les pro-ETA d'après 75, il y a les anti-ETA, et que donc on a mis une espèce de mouchoir pour faire silence sur cette époque-là, pour repartir à zéro. Comment a été perçu ton film qui lui remettait un petit peu au goût du jour la résistance de ces prêtres basques sous Franco?
Alors, d'abord, effectivement, ça touchait la question des curés, qui, eux, ont toujours été du côté du peuple. Pas forcément, d'ailleurs, pas forcément... bon, certains étaient proches de l'ETA, mais pas forcément dans la question de la lutte armée, mais parfois, oui. Je veux dire, donc, un certain nombre, tu sais. Mais ce qui est, en fait, en jeu à l'heure actuelle, c'est la question du processus de paix. C'est-à-dire comment, après ces années, ces années de plomb, parce que je pense que c'est pas de gaieté de cœur que les gens de l'ETA, à un moment, ont décidé la lutte armée, ou que Ipar et Tarak, au Pays Basque Nord, a décidé de la lutte armée. Avec certainement des bévues, et des bévues assez graves, quoi, je veux dire, puisque ça, il y a la vie de gens qui ont été en cause. Mais, pour le savoir, si tu veux, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le cadre du processus de paix, il y a des gens qui ont été membres de commandos, qui ont tué des gens, face à des, et qui discutent avec des gens, qui ont subi, les commandos de l'ETA, quoi, je veux dire. Alors, peut-être avec des erreurs de ciblage, tu vois, j'ai pas de leçon à donner là-dessus, mais j'essaie un petit peu de traduire, comment dire, ce qu'on en a perçu. Et la question du processus de paix, c'est une question qui est bien difficile, mais qui est importante, parce que elle met en jeu la question de comment des gens qui ont été opposés à un moment vont pouvoir vivre, vont pouvoir construire une société. Le vivre ensemble, pas trop de tarte à la crème non plus, hein, je veux dire.
Ce que tu dis fait écho à un film qui vient de sortir récemment, qui s'appelle Les Repentis, un film qui est dédié aux victimes de toutes les violences, victimes des violences de l'ETA, mais aussi victimes des violences du GAL, qui lui traquait et tuait les militants de l'ETA, et aussi victimes des violences policières. J'ai trouvé ça très très beau. Toi, ton documentaire, il est dédié à tous les prisonniers et prisonnières politiques basques, et à tous et toutes les artisans de paix.
Alors, effectivement, moi, je n'ai pas dédié, ça m'a pas été reproché, mais ça m'a été dit que j'aurais dû peut-être le dédier aux victimes, etc. La question, c'est que sur l'enquête, je n'ai croisé que des gens, que des familles de prisonniers politiques.
Incroyable, les suites de ce documentaire. Donc, si on remonte à la genèse, incroyable cette rencontre avec cette chanson de Colette Magny qui t'a amené jusqu'au Pays Basque et jusqu'à assister à la libération de prisonniers politiques basques que tu as accompagnés.
Alors, il y a effectivement Lorraine Chabéry, qui est celle avec qui qui a fait plus de 20 ans de prison, elle a 47 ans quand même, je veux dire, donc elle n'est pas très vieille, donc elle a passé une très grande partie de sa vie en prison. On s'est croisés, on a travaillé, et on prévoit une suite un petit peu du film, mais elle m'a simplement dit, elle me dit, moi je veux pas être la vedette du film. Mais par contre, elle me dit, la vedette du film, c'est la chanson. On s'attendait pas à ça d'une militante, tu vois, je veux dire, mais, et du coup, on travaille un petit peu, elle est loin, elle vit à cheval, hein, sur la frontière franco-espagnole, puisque son mari vit au Pays Basque Sud, mais son mari était prisonnier et sous bracelet électronique, quoi, je veux dire, voilà, donc c'est, voilà, bon, c'est, et voilà, bon, J'ai surtout croisé, effectivement, des prisonniers.
Donc, il y aura une suite à ce film, tu évoques.
On y travaille. Alors, moi, je suis très lent. Donc, tu vois, on a commencé un film sur Colette Magny en 99, tu vois. Et, j'ai mis 4 ans. Bon, je peux... Du coup, j'y pense, là.
On me sépare du monde, menottes aux mains. Le fouet encercle mon corps, comme les frênes sont tristes. Le brouillard leur cache les étoiles. Oiseaux en cage, presque sans force, la tragédie dans l'âme. On veut nous faire penser par la force, sous la menace des fusils. À la trompeuse lumière de la lune, le basque chemine, désorienté, mais en chantant, sortira le soleil de la vérité. Je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Eh bien, Pierrot, belle aventure que cette rencontre avec Colette qui t'a fait cheminer jusqu'au Pays Basque. Tu as évoqué Jean-Marc Le Bihan tout à l'heure. J'aimerais qu'avant de terminer l'émission, on évoque deux personnes, deux chanteurs. Un qui nous a mis en lien, qui est un ami commun et qui s'appelle Wally.
40 ans, il est bien content de les avoir eus pourtant. Il sait bien que dorénavant, il y en a plus derrière que devant. 40 ans, c'est une amertume qui l'envahit, qui le consume, qui lui fait dire un jour c'est bon, et le lendemain à quoi bon. 40 ans, c'est se retourner sur sa jeunesse si vite passée, et de faire inconsciemment un état des lieux, un bilan. C'est de grands projets qui feront peut-être, qui feront jamais. Ça fait que 10 ans qu'ils en parlent, ça les fait rêver pour que dalle. 40 ans, c'est la saloperie pour certains d'une maladie. Il dit pas assez à ses parents, c'est bien qu'ils soient toujours vivants. 40 ans, c'est voir ses enfants grandir, putain de cheveux blancs, et il leur dit profitez-en. Ils s'en foutent royalement. 50 ans, c'était juste hier, ça l'a pas fait sauter en l'air. Il peut plus aimer ce qui est clair, y'en a moins devant que derrière.
Sur les pas de Colette Mani au Théâtre Gyptis, puis à Verfeil dans le week-end, quand on arrive pour chanter, parce que nous on arrivait aussi avec des chansons de Colette, nos chansons, l'idée c'était de proposer aux gens de chanter et leurs chansons et les chansons de Colette. Donc il y avait Jehan, il y avait Serran, il y avait Dave Goodman, et il y avait Wally, et premier gars que je croise et qui vient me serrer la paluche, tu vois, je veux dire, c'est Wally, Wally qui dit, je sais que tu t'appelles Pierrot, Wally, bon voilà. Et la première fois où je l'entends chanter, parce que je l'avais jamais entendu chanter, d'ailleurs je le lui ai dit après, la première fois où j'ai entendu chanter, c'était une chanson sérieuse, c'était Les Multinationales des Boises de Colette Mani, puisque c'était l'hommage à Colette, avec Freddy, il avait voulu faire cette chanson, quoi, voilà, c'est... Et, alors Wally, c'est aussi un personnage, parce que lui aussi a croisé la route de Colette. Et ce que je peux dire, c'est ce que Didier nous a raconté, puisque Wally nous en a raconté aussi, c'est que Didier voulait faire venir Wally et Freddy pour qu'ils chantent pour le club de football de Verfeil. Et il était allé voir Wally en lui disant « on n'a pas trop de sous, tu sais ». Et Wally lui dit « moi je m'en fous des sous, on s'arrangera, mais il y a une bonne femme dans ton village qui s'appelle Colette Mani et je voudrais la rencontrer ». Et c'est Didier qui fait rencontrer à Wally, qui lui fait rencontrer Colette Mani, filles. Alors ils chantent, puis après ils se sont, elle les a invités à venir à José Arthur au Pop Club, quoi, quand même, tu vois, je veux dire, c'est, et Wally après a toujours suivi un petit peu ce qui se faisait autour de Colette. Après Wally a fait sa carrière solo, hein, je veux dire, qu'on connaît, et puis maintenant avec sa distinction, c'est...
Moi qui avais voulu, c'est indéniable, sortir de ma condition sociale, à l'écoute de ces génériques, on pouvait penser que j'avais réussi. Mais plus je côtoyais ce milieu parisien, plus j'en observais chaque jour les limites, et surtout mes limites, à mesure que grandissait ma non-légitimité, avec également un fort sentiment d'imposture.
Mais voilà, Wally, c'est un personnage important dans notre rapport aussi à Colette. Voilà.
Il est d'ailleurs dans ton documentaire. Et puis le dernier personnage qu'on va évoquer avant de finir l'émission, c'est Michel Buller.
S'il ne devait rester de moi qu'une chanson, quand je serais parti vers mes îles marquises, après le grand salut, il faudrait qu'elle dise que tu étais jolie et que nous nous aimions. Et que nous nous aimions tous deux émerveillés de vivre à notre tour ce miracle tranquille, d'être là, d'être heureux dans les rues de cette ville où les pavés sont durs et les hommes pressés.
Ah, Michel, c'est... Alors, Michel Buller, là aussi, alors c'est des croisements parce que je reviens en 96, en 1996, on avait fait parole prise, parole donnée. Nous, on avait pris la parole et on l'a donnée à Jean-Marc, à Didier. Didier, avec Gréco les Insectes, ils étaient venus chanter avec nous à Marseille. Et Colette était au téléphone, voilà. Et on s'est retrouvés avec Michel. Bon, c'est le croisement de cette carrière. Moi, je le connaissais pas. Il était loin à Marseille, on le voyait peu. Et en fait, un jour, quelqu'un m'en a parlé. J'ai découvert son œuvre et on a... Avec le cœur des gens à Marseille, on a chanté du Michel Buller, étranger, voyageur ordinaire, en Palestine, etc. Et il se trouve que des amis parisiens, François Tusque et François Nicolas, et puis un musicien de jazz anglais, ont lancé une pétition « Musicien des Gaza ». Et là, il se trouve que Jean-Marc Le Bihan était signataire, Wally était signataire, et Michel Buller, avec qui j'avais été en contact, je lui ai demandé s'il voulait être signataire. Et il a été signataire, d'autant que Michel Buller, par son circuit à lui, par la Suisse, était allé à Gaza, avait chanté dans une école de musique. Bon, je veux dire, c'est Michel était a toujours été un grand voyageur. Et il se trouve que pour les 30 ans de notre association, 2015, on a voulu inviter un petit peu tous les gens un peu emblématiques de notre histoire, de l'histoire de chansons de l'événement, à savoir Didier Brassac, Jean-Marc Le Bihan, Wally et Michel Buller. Et ces quatre se sont retrouvés alors à faire un débat sur la chanson un jeudi au centre social de Frévalon, le vendredi matin à l'école de Frévalon, 250 minots qui chantent une chanson de chacun des chanteurs, qui posent des questions aux chanteurs. Bon, on avait organisé ça, quand même, hein, tu vois, 150 minots. Et je revois et la tête de Jean-Marc, et la tête de Wally, et la tête de Didier, et de Michel, le sourire, le bonheur qu'ils avaient de pouvoir échanger avec les gamins, tu vois. Et Michel, alors Michel, c'est... On avait toujours gardé des relations amicales, tu vois, je veux dire.
Merci pour ce grand moment de partage et de voyage au sein de la chanson française et de la lutte des antifranquistes du Pays Basque. Merci beaucoup, Pierre.
Merci et à bientôt.
Et il nous tarde de découvrir le second film.
Adicias.
Ciao.
Salut.
Et fraternité.
Répression, répression, répression. Alors, on garde son sang-froid ? Je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression. C'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel. Respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention, attention, attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, rencontrer les marchés, faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac ! Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops ! Ah ! Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux ? Bla 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 bla, vite! La masturbation rend fou! Oh! Vrai ou faux? Plac! Coup de grisou chez les mineurs! Ils sont en danger! Arakiririkira! 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 Le dernier! Chez les colonels, on peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison, ou si flotter n'importe quelle connerie de la télévision, on nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? En deux temps, trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Attention, attention, va-t-on, va-t-on. Et si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on. Jusqu'où ira-t-on?